17h. France Inter. La différence.
15h passées de 3 minutes sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Salut à tout le monde, Daniel, les auditeurs. Petit coup de gueule, là, il est 5h, je démarre mon camion, je commence ma journée. Je branche le poste sur France Inter et j'entends ce putain d'Ariel Dombal, là, dans sa pub de merde, là, pour la Française des Jeux. J'en ai ras-le-bol avec sa voix de niaiseuse, là. C'est horrible et c'est insupportable. Pour commencer la journée, là, c'est un peu raide.
Bonjour, c'est Pauline. J'habite près du Maillet de Montagne, en montagne bourbonnaise, dans l'Allier, un petit coin méconnu de l'Auvergne où Nicolas Sarkozy est venu en visite hier, jeudi 25. Ça nous a bien fait suer toute la journée. Dans le village de 1400 habitants, il y avait plus de policiers que d'habitants. Il était impossible de se garer, il était impossible de circuler à partir de 8h du matin, pas le droit de prendre sa voiture pour aller travailler, pour aller chez le médecin ou quoi que ce soit. Pas le droit de faire ses courses, l'Intermarché était fermé toute la journée. Et pas le droit non plus de téléphoner puisque le téléphone et l'Internet étaient mystérieusement en panne pendant près de 24 heures, oui, au Maillet de Montagne et dans plusieurs villages à 10 km à la ronde, voilà. Aujourd'hui il neige mais au moins on peut circuler et on a le droit de téléphoner, tout va bien. Bonne journée.
Le dernier Café Repère de l'année 2010 de Genève aura lieu ce lundi 29 novembre. À 19h30 au Café Gerlaise, boulevard Jens Fazi, 4 bis. Nous discuterons des résultats des élections fédérales qui auront lieu ce week-end en Suisse. On devra voter sur plusieurs initiatives, dont une lancée par notre fameux parti d'extrême droite, l'UDC, pour le renvoi des criminels étrangers. Donc la dérive populisto-raciste continue en Suisse, comme d'ailleurs dans plusieurs pays européens, et nous discuterons de cette dérive plutôt inquiétante. Merci à tous et à lundi 29. Ciao.
Vitré, une petite ville tranquille d'Ille-et-Vilaine. Non, pas du tout. Prochainement, le conseil municipal devra se prononcer sur le projet du maire, Pierre Méhaignery, d'installer 12 caméras de vidéosurveillance dans notre ville. Vidéosurveillance, ouh, c'est un gros mot ça. Non. C'est pas des caméras de vidéosurveillance, ce sont des caméras de vidéo tranquillité. Bon, bientôt ils vont nous sortir la vidéo tendresse. On attend. Alors à Vitré, avec un groupe de militants, nous avons souhaité devancer les désirs de Monsieur Méhaignery en installant, samedi dernier, des caméras de vidéosurveillance en carton à l'entrée du marché. Eh bien, nous avons été très surpris de la réaction de la population. Tentative d'évitement des caméras, jeûne, protestation, oh, ça ne se passait pas très bien. Les Vitréens ne seraient donc pas prêts à vivre sous l'œil rassurant des caméras de vidéo tranquillité. Pour en avoir le cœur net, nous serons à nouveau présents le samedi 27 novembre au marché de Vitré dès 10h avec les copains du front de gauche de Vitré. Vous êtes tous les bienvenus.
À propos de l'émission sur les maisons de retraite, EHPAD, ce qui n'est pas normal, c'est de mettre une personne âgée en maison de retraite. Il faudrait trouver d'autres solutions. Parce que quand on a passé sa vie à élever des enfants, à être responsable, et que d'un seul coup on vous dit à quelle heure il faut bouffer, à quelle heure il faut pisser, à quelle heure il faut dormir, à quelle heure il faut parler, à quelle heure il faut la fermer, bien sûr, c'est quand même un petit peu difficile.
Stop ! Arrêtez de dénigrer les EHP à des maisons de retraite. Je suis infirmière dans l'une d'entre elles. Stop. Arrêtez de ne parler que de maltraitance, mauvais soins, absence d'humanité. Stop. Il y en a des biens avec, outre les soins de confort et de bien-être, il y a de l'empathie, de l'humanitude, de la joie, oui, une vraie vie, un vrai accompagnement des résidents, un vrai engagement des personnels. Ça existe quand même des bonnes maisons de retraite où la fin de vie y est agréable.
Il y a 50 ans, j'avais 20 ans. Et j'allais rendre visite à des anciens dans le mouroir de Nanterre, où étaient entassés des centaines de lits dans la même salle. À 27 ans, j'étais infirmier dans un mouroir d'HP, avec des salles de 12 personnes gâteuses. À deux, nous passions la matinée à nettoyer chacun, et je sentais la merde en rentrant chez moi. Aucune douche n'en venait à bout. Je vois que la réalité d'aujourd'hui est aussi dégradante et honteuse pour la majorité des vieux du monde ouvrier et du monde agricole. La personne qui m'a élevé a 90 ans. Elle a la chance d'être dans un foyer logement de petite sœur des pauvres. Mais elle s'ennuie beaucoup. elle qui était hyperactive. À 72 ans, je suis encore très autonome dans tous les domaines, dans ma forêt. Je suis très actif. Mais quand je ne serai plus bon à rien et dépendant, qu'on me laisse le choix d'en finir. Le dernier médecin vu craint une infarctus du myocarde. Une chance pour moi, et surtout que personne ne me réanime. Souffrir sans espoir, ce n'est plus vivre.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, j'allais dire chers AMG, tant ce dernier message est touchant et profond. Nous voici sur la route du retour, retour du Kivu, retour du Katanga, retour de la République démocratique du Congo, et avec une petite histoire au retour à Kinshasa, le douanier nous demande qu'est-ce que c'est que ce caillou que vous avez dans la valise, pas dans la chaussure, mais dans la valise. Give avait mis un petit caillou dans sa valise. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on se demande, est-ce que c'est de l'or? Non. Est-ce que c'est du cuivre? Non. Est-ce que c'est du coltan? Non. Est-ce que c'est de la cassérite? Non. Aucun de ces métaux précieux. C'est quoi? Demande alors le monsieur douanier. On lui dit, c'est un petit morceau de lave du volcan. C'est une petite pierre de lave du volcan de Goma. Et le monsieur nous regarde tout à fait estomaqué et dit, mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Oui, ben oui, mais voilà. Quelle est la valeur de la valeur? Pour nous, bien sûr, ça représente l'histoire de cette ville qui est sous un volcan, Goma. Et ça raconte énormément de choses. Ce tout petit caillou raconte énormément de choses sur tout ce qui s'est passé et qui continue de se passer dans cette région du monde. La valeur des choses, la valeur des hommes, la valeur des âges aussi. C'est ce qui va nous préoccuper à nouveau aujourd'hui sur le grand âge, sur la dépendance qui, dit-on, sera le grand chantier du gouvernement actuel. On en avait parlé déjà dans la Bas si j'y suis et on en reparle à nouveau aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à toutes. Samedi 27 novembre aura lieu une marche de nuit féministe et non mixte à l'appel du collectif Rage de Nuit. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons peur quand nous marchons seuls la nuit, et bien plus. Deux jours après la journée internationale contre les violences faites aux femmes, lors de laquelle médias et gouvernements se donnent bonne conscience alors même qu'ils génèrent et entretiennent la domination masculine, nous marcherons contre ces violences qui sont sexuelles, physiques, psychologiques, économiques, racistes, policières, étatiques et bien souvent invisibles. Rendez-vous demain samedi 27 novembre à 17h devant l'hôpital Tenon à Paris, métro Gambetta, dans le 20e arrondissement. Salut!
On se retrouvera pour le repère de Montauroux chez Hervé aux Estérés du Lac, au bord du lac de Saint-Cassien, samedi à 15h30. On y parlera de l'actualité du canton de Fayence avec la sortie du nouveau journal du pays de Fayence. On y parlera aussi de ces demandeurs d'asile tchétchènes et ingouches d'origine africaine qui sont hébergés au 1 avenue Clémenceau à Nice et qui avant-hier ont reçu la visite très musclée de la police. Il y a une vidéo qui tourne sur Dailymotion, vous pouvez les voir, c'est la-police-2-la-honte, la police de la honte avec des tirets au milieu. Vous allez voir comment la police a défoncé la porte avec un bélier avant d'essayer de la découper à la disqueuse, et tout ça dans un but complètement négatif. Heureusement, ils sont repartis bredouille. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de beaucoup de choses, mais surtout de présence. Ça se passe à Nice, ici en France, dans le laboratoire d'Estrosi. Ciao, vive, portez-vous bien, samedi 15h30 aux Estérés du Lac. Vive.
Mesdames et messieurs, nous avons quelques petits hangars
d'envoi. Abandonnez vos bras,
vous allez
revenir
à votre place. Nous vous souhaitons une bonne soirée.
C'est un gantou, ça?
Oui, c'est du cake, maman.
Ah, bah, oui, bien, oui.
Prends un bain.
Dans la
baignoire. Hein?
Chut, maman. crie pas. Ils vont croire que t'es toc toc.
J'ai deux amours, mon pays et Paris. Mon cœur est ravi.
J'ai l'impression que quand on rentre, et je suis à peu près sûre que c'est ce que maman a eu comme idée, on a l'impression que c'est là, c'est fini. Là, c'est le mouroir. La vie, elle s'arrête là. Elle va s'arrêter parce que vous êtes en maison de retraite et vous n'en sortirez pas. Si un jour je me retrouve en maison de retraite, j'espère ne jamais y venir. Jamais.
Oui, oui, à peu près.
Vous ne pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner?
Non.
C'est comme ça, il faut qu'il y ait du rendement, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, faut que... Et à l'heure actuelle, les personnes âgées, c'est du bétail, et encore. Je veux dire, je crois que maintenant, un animal, s'il souffre, on le pique, hein. On ne laisse pas comme ça.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Nous avons décidé de ne plus lire vos livres, mais les rides de nos ancêtres.
Moi, ça fait 10 ans que je suis là.
10 ans?
10 ans. 10, pas 6, 10. 10 ans. Mais je vais vous dire que ça a beaucoup changé. Parce que quand je suis arrivée il y a 10 ans, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas la même ambiance. Moi, ici, quand je suis arrivée, il n'y avait que 3 fauteuils. Et pas de malades mentaux. Et qu'aujourd'hui, il y en a la moitié. La moitié de fauteuils, malheureusement. Et les malades mentaux, il y en a aussi beaucoup. Surtout ici, il y en a une qui crie jour et nuit. Ça, terrible. Il y en a qui disent rien, qui perdent la tête, qui essayent de sortir pour aller dans la rue.
Et vous avez quel âge ?
89 ans.
Là, dans le couloir, vous êtes toute seule?
Ah oui, je suis toute seule. Pour le moment. Oh, puis vous savez, dans le couloir... Si, j'ai une grande amie, là. Une grande amie.
Vous êtes toute pomponnée, vous avez mis du rouge à lèvres.
Mais non, je suis pas peignée. Tiens, là, voilà ma copine.
Trompez-vous pas, hein.
Bonjour.
Comment vous vous appelez?
Simone Guillard.
Vous savez longtemps que vous êtes ici?
Oui, depuis le 31... octobre 1999.
Vous vous plaisez ici?
Oui. Bah oui. Oui, bon, bah oui, on va dire oui. Je fais un petit peu les travaux de couture, puis la dame me prête le journal. Alors puis quand il y a des animations en bas, on descend.
Ah bah oui.
Ah oui. Voilà, là comment qu'on passe notre temps. Alors, avant, ben, avec madame, on sortait, mais moi, depuis, ça fait 3 ans que j'ai du fémur cassé, et puis ça s'est mal arrangé, ils m'ont mis une plaque d'un bout à l'autre. Alors, alors.
Et vous faisiez quoi quand, dans votre vie, quand vous étiez avant?
Paysanne, cultivatrice.
Oui, oui. Vous aussi?
J'y suis née, puis j'y retournerai. J'y suis née, j'ai tout le temps été, quoi. Beaucoup de vignes. Bah oui, parce moi que j'avais des vignes, mais beaucoup plus d'animaux. C'était principalement les animaux.
Ah ben, principalement les vignes.
Aussi, la campagne, elle nous manque, quoi. Mais on s'est résolu, on sait qu'on n'a pas autre chose. C'est vrai, on sait qu'on n'a pas. Que voulez-vous que je retourne chez nous? Bon, ben d'abord, ma maison est vendue pour payer ici, parce que j'ai pas de quoi.
On a tout
rendu. Vous vous rendez compte? En 10 ans de temps, la somme que j'ai versée ici, faites un petit peu le calcul.
Est-ce que c'est combien un mois ici?
C'est 1600 euros par mois. Et il faut 3 mois et demi de retraite pour payer un mois ici. Alors, je n'ai plus, je paye un peu, j'ai une aide, et c'est mes petits-enfants, parce que ma fille a une longue maladie, cancer et tout ce qui s'en fait, et c'est mes petits-enfants qui payent le reste pour moi. J'ai mangé ce que j'avais de placé, j'ai mangé ce que j'avais de liquide, j'ai mangé mon bien et j'ai mangé ma maison. c'était pas toujours hier. Aujourd'hui, j'en suis rendue, c'est mes petits-enfants qui font le reste, qui font la pointe. On ne fait pas cadeau ici. Ben non, puis il faut payer les assurances, il faut payer ni plus ni moins encore en plus. Hein. C'est qu'on ne fait pas cadeau les assurances. Hein.
On nous... assurances en plus.
Ben, on paye les assurances, on ne fait pas.
Ben oui,
les mutuelles, qui les payent, c'est pour nos voisins, vous savez. Vous savez, des doutes à moi à l'hôpital et des opérations comme j'en ai subi. Moi, j'en suis à ma 10e opération, mais qui n'ont encore les plus. Personne n'aurait. Si j'avais pas été une assurance, personne ne pourrait faire ça, voyons. Vous vous rendez compte, hein.
Millions de Français ont plus de 80 ans, plus de 600 000 personnes âgées seraient victimes de maltraitance. Plus de 300 établissements devraient être fermés, mais des milliers d'autres ne permettent pas d'offrir une fin de vie digne et heureuse. 1 million de plus de 85 ans et seulement 600 000 places dans les institutions, alors on comprend que les maisons de retraite peuvent tout se permettre. On en parle de temps en temps, c'est pas facile de faire un reportage dans une maison de retraite. Vous avez vu, en télé, il faut souvent avoir recours à des caméras cachées, il faut s'infiltrer, il faut, comme si la vie de nos anciens devait être cachée, mystérieuse, comme celle des détenus. Le business du kakoshim est devenu au fil des ans presque aussi juteux que le casino de Monte Carlo. Une fois les investissements immobiliers amortis, le taux de rentabilité dépasse facilement les 25%. Et c'est quand même pas mal. 25% pour les actionnaires. Une demi-douzaine de grands groupes écument désormais le marché et alignent des bénéfices. Oh, comme ça, ceux de Medidep, 12,4 millions d'euros, ont été multipliés par 10 depuis 1998, et des cours de bourse sont dopés à la courtisane. Les actions d'Orpea, la société de Jean-Claude Marian, n'ont-elles pas doublé en moins d'un an? Pas étonnant que les investisseurs se précipitent dans le créneau comme des oursons sur un pot de miel. Le fonds de pension britannique Bridgepoint n'a par exemple pas hésité à flamber 330 millions d'euros en 2003 pour mettre la main sur Medica France, 5100 lits. Et pas un matin ne se lève sans qu'un particulier monte un dossier de construction de résidence auprès de sa préfecture avec le fol espoir de faire la culbute. On appelle tout cela l'or gris, le business des mouroirs. C'est très très rentable. Alors, amis âgés qui nous écoutez, ne dites plus « je suis inutile, on n'est plus bon à rien ». Non, 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 non. Dans ce monde tel qu'il est et tel qu'il va, vous êtes bon à ça. 25%, 25% de rendement, de rentabilité. Vous n'êtes pas fier de ça, non? Bon, alors restez avec nous jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis.
Il faut que j'explique rapidement qu'un hospice, si des gens n'y sont jamais allés, c'est un endroit où l'on peut mettre ses petits vieux quand on n'en a plus besoin. Alors, on les met là, on s'occupe bien d'eux, et on peut aller les voir quand on veut, ça leur fait plaisir le dimanche. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors les dimanches passent comme ça, on dit on ira, on ira, et puis un jour, ce n'est plus la peine d'y aller du tout. Alors, bon, bref, nous sommes allés, nous, commandés par le Seigneur, visiter cet hospice, et nous sommes tombés donc sur les petits vieux qui étaient, juste après le déjeuner, assis tous ensemble, un peu comme vous, et qui eh bien, s'amusaient comme ils pouvaient, parce que personne ne venait les voir ce dimanche, comme d'habitude. Et ils s'amusaient
ils faisaient ce qu'ils pouvaient,
au quadrille du troisième âge. Oui. Alors, nous avons observé, nous avons essayé d'apprendre cette danse et vous la proposons.
Très bien.
Alors, ça commençait par taper dans les mains,
taper dans les cuillères,
monter sur les bottins,
siffler par le derrière.
Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que l'on aime bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais. Dimanche après l'office, on va faire un tour à l'hospice. On y retrouve tous les petits vieux, c'est vrai qu'ils y sont tellement mieux. Ils préféraient voir leurs enfants, arrière-petits déjà bien grands, qui pensent à eux affectueusement, vissés devant l'école des fans. C'est la Lucie qui monte en premier, d'avant son sang que ça va chauffer. Elle fait deux tours et demi-vrille, le tout sans lâcher les béquilles. C'est un public de connaisseurs, car tout l'hospice reprend en cœur. Lucie va faire un gros succès, et elle entonne sans hésiter. Tapez dans les mains, tapez dans les cuillères, montez ça le matin, sifflez pas derrière. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que l'on aime bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais. Toute la journée passée à danser, va bien falloir aller se coucher, mais toute la semaine on va penser aux petits détails qui font gagner. Dimanche, c'est sûr, se dit Arthur.
C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
Dimanche, c'est sûr, je vais gagner, car je vais mieux coller monde entier.
Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais, ah oui, ah mais. Voilà.
Moi, je suis rentrée en 83 ici, j'avais 17 ans et demi. Quand je suis arrivée, moi, c'était des gens valides. Cette maison-là était faite pour des gens qu'on ne s'occupait pas. Juste leur donner à manger, ils se lavaient tout seuls, ils faisaient leur lit, ils faisaient leur poussière, ils faisaient leur chambre, ils faisaient tout, quoi. Mais c'est vrai que les gens, maintenant, c'est des gens lit, fauteuil, fauteuil, lit, c'est pas adapté pour eux, quoi. Déjà, elle a 50 ans, la maison. On n'a quand même qu'une baignoire pour 33 résidents. Alors, faut attendre que la collègue ait fini pour que nous, on aille chacun notre tour, quoi. C'est ça, le problème. C'est pour ça que je dis que la maison n'est pas adaptée pour ces gens-là.
Alors, là, on coupe le pain qu'on va distribuer tout à l'heure pour les petits déjeuners.
Alors là, vous avez toute l'équipe du matin.
Vous, Claudine, Martine,
Annick,
Valérie.
Vous êtes agent aussi ?
Agent hospitalier, oui. Il y a plus d'agents que d'aides-soignantes ici.
Là, ce matin, vous n'avez qu'une aide-soignante, c'est-à-dire moi, pour 66 personnes en gros, quoi. Voilà. Une infirmière 66, une aide-soignante pour 66 résidents. Et après, c'est des agents. Donc, trois agents par étage. Ils ne sont pas formés pour, mais on n'a pas... Voilà, il faut la même chose.
Et on coupe les ongles, on fait tout ça. Ouais. Normalement, dans la hiérarchie, c'est pas comme ça. Nous, on devrait faire que du ménage, l'entretien des locaux, porter les plateaux. Normalement, une ASH fait ça. Mais en maison de retraite, on fait tout.
Et l'après-midi, ben, ça peut être que deux agents aussi. Il n'y a pas forcément d'être soignant. Là, on va se poser un tout petit peu pour en parler un petit peu.
Prendre un petit café.
Puis après, on va se mettre au travail.
Bonjour mesdames.
Le Grand Mail à Amboise, c'est le nom de cette maison de retraite. Et l'équipe du matin, c'est Martine, qui est soignante, Claudine, agent de service hospitalier, Annick et Valérie également, qui commencent leur journée de boulot. Alors là, j'ai évoqué le secteur privé, depuis qu'il développe merveilleusement bien. Vous avez vu les bénéfices qu'on peut tirer des avantages extraordinaires sur l'or gris, sur les vieux. Il faut rappeler qu'il est tout à fait courant dans ces établissements que une chambre soit autour de 5 à 6 000 euros par mois. Je parle du haut de gamme. Là, c'est pas le cas. Là où nous sommes, c'est un établissement public. On a critiqué le privé, mais il faut aller voir comment ça se passe également dans le public. Les conditions ne sont pas forcément fameuses.
Annick a fait aussi, je crois. Merci.
C'est un lieu de vie, ce n'est pas l'hôpital ici, c'est un lieu de vie.
Mais pourtant, vous portez toutes des blouses blanches.
Oui, voilà, mais nous, on a demandé à avoir de la couleur, mais on n'en a pas. Les premières toilettes sont à 7 heures.
Et les résidences, ils n'ont pas envie de se réveiller.
Le problème, voilà. Il est là. Ah ouais, les gens, il faut les lever. Il n'y a pas le choix, malgré...
C'est pour ça que c'est un peu... Quand ils disent une maison, enfin un lieu de vie, excuse-moi, un lieu de vie, pas le droit de dormir le matin. Parce qu'il y en a à 7h30, 8h moins le quart, ils sont déjà dans la baignoire.
Hein. On fait notre maximum.
Ça nous fait mal au cœur des fois d'arriver dans la chambre, de les voir dormir et puis de les... On les maltraite pas, mais on est obligé de tout doucement de leur dire bon ben ma foi, va falloir se lever, faire la toilette. Et ils sont encore dans le sommeil comme des enfants, c'est vrai. Et ça fait mal au cœur, quoi. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'il y a quand même ce stress. Hein. On a une cadence là. En une heure, on en fait combien? On fait 3 bonnes toilettes. Vous voyez, alors regardez le temps, ça fait quoi? À peine un quart d'heure par personne. Quoi.
On a notre cuvette et on fait la toilette. Nous, on fait ça. On n'a pas de douche dans les chambres. C'est ça le problème. Je pense qu'on aurait les douches dans les chambres, on perdrait moins de temps déjà, puis on aurait plus de temps avec la personne.
C'est le seul moment où on peut leur adresser un peu la parole, leur parler un peu. On sort, on leur dit à tout à l'heure, en sachant très bien qu'on n'a pas le temps de revenir, à part pour aller les chercher pour le repas. Et s'ils sonnent, bien évidemment, mais s'ils ne sonnent pas, il y en a, on ne les revoit pas de la matinée. Hein.
Qu'est-ce qu'elle parle bien?
Elle est en formation, hein.
Il y a quoi comme formation, par exemple?
La manutention, la douleur,
la maltraitance.
La bientraitance, c'est quoi?
Toutes les violences qu'on peut faire physiques ou morales.
Voilà. Les améliorer.
Voilà. Ouais.
Mais c'est des choses qu'on peut pas mettre en pratique, comme normalement on devrait mettre, je sais pas, demander à une résidente ce qu'elle veut mettre le matin. Donc ce serait elle de choisir sa robe, de choisir, voilà. Nous, malheureusement, on n'a pas le temps. Hein. C'est souvent nous qui sortons les vêtements et hop, on vous habille. On n'a pas le choix. S'il faut les laisser chacun devant leur armoire, vous pensez bien qu'à 3 heures, il y en a encore la moitié qui sont tout nus. Sinon, c'est le brushing quand ils vont au bain. On n'a jamais le temps de... C'est un coup de brosse, hein, après la toilette, et puis allez hop, on attend le bain 10 jours après. S'ils n'ont aucun bain tous les 10 jours.
En principe, ça devrait toutes les semaines, mais quelquefois, ils sont un mois sans les avoir.
Un mois?
Ah oui, ça peut arriver.
Formation Alzheimer aussi. Ouais. Parce que nous avons beaucoup de résidents de plus en plus qui sont atteints de cette maladie et qui sont très difficiles à gérer quand c'est un service qui est mélangé. Nous avons un petit peu de tout. Démence, Alzheimer...
Mais le plan Alzheimer, pourtant, c'était un soignant pour un résident atteint.
Non, ça n'existe pas, ça. Non, ça, c'est dans les papiers, c'est dans... C'est à la télé,
ça. Oh, mon Dieu. France 2.
Hop. Allez, ma belle.
22 octobre 2007, les infiltrés.
Gagner le pompon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chinonné, elle m'a mis de la merde de partout, elle a essayé de laver sa couche, elle va boucher les chiottes. Ah, celle-là... Allez, vous asseoir. Bonjour, c'est la CC. Oui, ben, vous allez voir. Hein. On va pas être copains ce soir, hein, tous les deux.
T'as ouvert la fenêtre?
Asseyez-vous. Non, non. Si vous bougez, je vous attache.
Ça y est, on a jusqu'à demain matin. Là, t'as vu, ça va pas aller, on va être obligé de sévir. Hein.
Franchement, fraîcheur matinale d'égout, hein, vous allez tout m'en passer. Hein.
Scène de maltraitance dans ce film qui a frappé beaucoup, tourné par les infiltrés. C'est fréquent, ce genre de choses est fréquent. C'est pas facile à tourner, à enregistrer. Il y a omerta sur ces situations. Et les personnels, évidemment, tiennent pas à perdre leur boulot. Et finalement, dans le corps médical, chez les médecins, chez les... gériatre, etc. On n'est pas trop... Voilà. Rares sont ceux qui disent les choses comme elles sont, tout simplement, et ont le courage de leurs opinions qui sont basées sur ce qu'ils constatent tous les jours. En tous les cas, c'est le cas de Jacques Soubéran, qui est professeur. Jacques Soubéran, professeur de faculté de médecine de Marseille, où il enseigne la médecine interne et la gériatrie, et il est également praticien pour les personnes âgées à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Et il a participé à ce livre « On tue les vieux », qui est sorti il y a 2 ans, qui donnait de la situation, les conditions dans ces maisons et en général, situation du de nos aînés en France, un tableau assez alarmant, et qui s'est penché sur la maltraitance, la fameuse maltraitance. Qu'est-ce qu'on peut entendre par maltraitance?
Alors, par le terme de maltraitance des personnes âgées, on entend le fait que ces personnes âgées ne sont pas prises en charge correctement, comme elles le devraient. D'ailleurs, ceci a été reconnu puisque aux États-Unis, il existe maintenant un véritable délit qui s'appelle un délit de non-prise en charge correcte des personnes âgées. Alors, à partir de là, on peut distinguer plusieurs types de maltraitance. Il y en a la première, c'est ce qu'on appelle la macro-maltraitance. Celle-là, elle se définit très vite. C'est pas la peine d'être médecin pour faire le diagnostic. Il suffit de voir des personnes âgées qui ont subi des coups, des fractures, des contusions, des bleus, qui sont abandonnés quasiment dans leur lit, sans qu'on s'en occupe, qui sont complètement déshydratés. Donc ça, on connaît bien ce type de maltraitance. C'est une maltraitance qui peut atteindre aussi les domaines psychologiques, dans la mesure où, si vous voulez, ça passe aussi par des insultes, etc. Bon, ça, c'est une maltraitance, je dirais, qui est apparente. C'est pas certainement la plus importante. Il y a ensuite ce qu'on appelle une micro-maltraitance, et c'est certainement celle-là sur laquelle il faut faire le plus d'efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que là, c'est une addition de petits dysfonctionnements qui, pris isolément, ne donnent pas l'impression d'avoir de l'importance, mais lorsqu'ils s'additionnent, ont une influence absolument catastrophique sur l'évolution de la santé des personnes âgées, puisque ça peut aboutir à la mort. Alors ça peut être des sujets qu'on ne fait pas boire et donc qui vont se déshydrater, qui ne sont pas capables de boire si on ne les aide pas, mais on ne les fait pas boire. Ce sont des personnes âgées qu'on va laisser macérer dans leur matière ou dans leurs urines, sans les changer, sans faire leur toilette correctement. Ce sont des toilettes qui sont faites à toute allure par des gens qui ne savent pas les faire. Ça existe, malheureusement. Ce sont des prothèses, pardon, des prothèses dentaires qui sont perdues ou qui sont cassées. Des prothèses oculaires, des lunettes qui sont aussi perdues ou qui sont cassées, des plateaux repas qui sont soit servis froids, soit qui sont posés sur des tables, par exemple, devant des personnes âgées qui sont incapables de manger par elles-mêmes. Ce sont des personnes âgées qu'on va faire manger trop vite parce qu'on est pressé et qui, vous savez, chez les personnes âgées, souvent, il y a des troubles, ce qu'on appelle la déglutition, il y a des difficultés à avaler, et donc ils vont faire ce qu'on appelle des fausses routes avec des conséquences catastrophiques. Ce sont des personnes qu'on ne va pas mobiliser si elles sont grabataires, par exemple, et donc ils vont faire des escarres. Alors, additionnez tout ça, et vous en arrivez à une maltraitance qui est ordinaire, mais qui a des conséquences extrêmement dramatiques.
On peut rien faire à ces personnes-là. Non, enlevez-moi là, ça, elle pue. Bon.
Moi, je me suis vue prescrire à une dame en fin de vie d'un cancer du côlon. On m'a dit, sur cahier, mettez-lui un suppôt de Doliprane 4 fois dans la nuit. Je ne sais pas si vous imaginez. Un suppositoire d'un antalgique simple pour quelqu'un en fin de vie avec métastasé. Vous imaginez. Et c'est même pas par la bouche qu'on me demande de le faire, c'est de le mettre par voie.
Bonjour, bonjour monsieur. Ça va monsieur, merci. Vous également? Vous avez raison, il faut. Oui, vous avez bien mangé?
Il y a des familles qui ont la possibilité, qui viennent les visiter de temps en temps. Mais il y en a qui les déposent et qui ne reviennent plus.
Quand on a créé des maternités, on a des usines à bébés, on a des usines à vieux. Voilà.
On est avec eux, hein. On connaît quand même plus ou moins leur situation familiale. Puis ils nous le disent, hein. J'ai des enfants, mais non, mais je les vois plus. Alors ils passent pendant les vacances, ils passent par là, et puis ils arrivent, ils sont tout contents, on leur fait toute belle, tout beau, et puis c'est parti pour l'année prochaine. Et je peux pas dire que c'est la faute des enfants ou de la famille des frères et sœurs. Mais c'est les structures qu'il faut changer.
Ah ben, elle est petite, votre chambre.
Oui, moi, elle est petite, ta chambre. Enfin, je m'en contente, vous savez. Vous savez, avec Madame Lunel, la dame que vous avez là, on est rentrés ensemble, on est du même parti, on a familiarisé ensemble. Vous savez, on se partage nos joies et nos peines. On se confie beaucoup de choses l'une à l'autre. Justement, vous savez, oh, j'ai peiné à m'habituer. Hein. Je vous dirais que j'y suis encore bien juste. Ben oui, parce que vous savez, ça fait un grand changement. Comment que je vous dis ? On voit du monde, mais on est quand même privé de sa famille. Ils viennent quand ils peuvent. On est quand même privé de sa famille. Hein. C'est pas quand même pareil. Mais enfin, je sais que je peux plus être toute seule. Je peux plus toute seule. C'est la journée, ça va. Mais la nuit, c'est des nuits, tout seul. Si on a besoin. C'est comme ça, c'est comme ça.
On va avoir le déjeuner dans une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est ça qu'il y a. C'est qu'on mange beaucoup trop tard le matin.
Vous pouvez pas vous préparer votre petit déjeuner ?
Oh, ben non, là, ben non. Ben si tout le monde se transmet d'aller toucher à tout, ça va pas. Hein. Non, faut qu'il y ait un règlement pour tout le monde.
Les aides-soignantes, elles ont le temps de temps en temps de venir passer avec vous, boire un petit café.
Ça ? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, madame. Oh non, puis vous savez, c'est pas sûr que ça se voit.
C'est pas sûr que
ça existe un jour. Moi, je ne pense pas. À moins que ça s'améliore, mais que voulez-vous. Elles ne sont pas nombreuses, hein, elles n'ont pas le temps. Hein, elles ont beaucoup de travail, quoi. Ah oui, elles n'ont pas le temps. Même qu'ils voudraient, ils ne l'ont pas. Pour dire, faut être juste, ils ne l'ont pas. Non.
Comment va notre
Simone
ce matin?
Ça va. Est-ce que tu t'en as tiré dessus, non? Et on va s'offrir là-dedans. Oh. C'est sa femme.
La femme de qui?
De ce monsieur-là.
Qui vous envoie une carte?
C'est une ancienne animatrice qui est partie en Boisparais. On l'aimait beaucoup et elle nous aimait beaucoup. Mais voilà, c'est secret, il ne faut pas faire voir ça aux autres leaders, parce que tout le monde en a.
Ah, parce que tout le monde en a pas?
Non.
J'aurais bien voulu te prendre avec nous comme autrefois, mais Suzy m'a fait comprendre qu'on est un peu à l'étroit. Il faut être raisonnable, tu ne peux plus vivre ainsi. Seule, si tu tombais malade, on se ferait trop de soucis. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. Ton serin chante à tue-tête. Allons maman, calme-toi. Oui, le directeur accepte que tu le prennes avec toi. Et à la télé dans ta chambre, en bas y a un beau jardin avec des roses en décembre qui fleurissent comme en juin. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. Et puis, quand viendra dimanche, on ira faire un festin. Je me pendrai à ta manche, comme quand j'étais gamin. Tu verras, pour les vacances, tous les deux on sortira. Là où l'on chante, où l'on danse, on ira où tu voudras. Tu verras, tu seras bien, tu verras. Tu seras bien.
La
Là, on prépare.
Le petit déjeuner.
Alors ça, c'est pour les gens qu'on fait manger. On prépare une mixture spéciale.
Pour les gens qui ont du mal à déglutir.
Voilà.
Et
je peux le prendre, celui-là?
Oui, oui. On est obligé de faire manger.
Alors, vous faites quoi, là?
Alors là, en fait, c'est des gens qui étaient habitués à déjeuner avec du pain, du lait, du café. Donc là, en fait, on met tout là-dedans. On rajoute le lait, le café, un petit coup de mixeur. On rajoute du sucre, le beurre, comme s'ils avaient un plateau, en fait, de petit déjeuner normal. Donc, en général, sur un plateau, ils ont 4 tartines de pain, 2 beurres, 3 sucres, une confiture. Donc là, c'est ce que je vais mettre pour 4 personnes. Donc, je remets tout en... Voilà.
C'est un nom, ça ?
Non, nous, on appelle ça notre mixture, mais je pense pas que ce soit comme ça. Voilà, là, je vais rajouter le café. Alors, c'est vrai qu'à voir, ça peut paraître un peu ragoûtant.
Et pour le midi, les gens qui peuvent pas manger, ils se mixent comme ça aussi.
Voilà, ils ont exactement le même repas que les gens qui vont pouvoir manger seuls, mais par contre, ça va être mouliné ou mixé. Alors par contre, les bouillies, on les utilise les week-ends. On leur donne des petites blédinas, là, comme les enfants. Vu qu'on n'est que 3 pour 33 résidents, voilà, on n'a pas le temps de faire tout ça. Ouais, c'est... Les gens, ils s'ennuient beaucoup. Alors on essaie de leur trouver des occupations, il y en a qui nous plient du linge aussi. Alors ils se sentent utiles, c'est vrai. On a une petite grand-mère aussi qui va nous acheter notre pain des fois. Elle vient nous voir, vous allez la voir tout à l'heure. Vous avez besoin de quelque chose? Alors bon, ben, des fois on l'envoie acheter la baguette. Nous, ça nous évite d'y aller en débauchant. Et puis elle est ravie parce qu'elle nous rend service. Le problème, c'est qu'on peut même plus les revaloriser par rapport à ça, parce que nous, on n'a déjà pas de temps à passer avec eux. Donc ben, on perd un peu ce côté-là pour les revaloriser, leur faire voir qu'ils existent, tout simplement. Parce que là, des fois, on a l'impression que c'est un peu des objets quoi qu'on a mis là, après la toilette, et qu'on attend de venir chercher. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, c'était le résident qui était prioritaire. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est à côté. Enfin, nous, on a tendance à dire le bling-bling, quoi. Essayer de épater les gens, la chambre est propre, le lit est bien fait. Mais le bien-être du résident, je crois qu'on en est loin. C'est la course.
Bonjour. On va manger. Hein? On va se relever. Non, il a fait un AVC il y a 4 ans. Et depuis, il ne parle pas, il n'y a pas. Mais il se fait bien comprendre quand même. Quand il veut quelque chose, il sait bien se faire comprendre. Mais bon. C'est un monsieur qu'on fait la toilette après, ça. Ce foyer 2, c'est des grosses toilettes quand même. Mm-hmm. Parce qu'on a des lèvres malades, mais la plupart ne rentrent pas dans les cabinets de toilette, ou alors dans la chambre, il y a trop de choses, on ne peut pas s'en servir. Alors, on est souvent à soulever à bras, quoi. C'est un monsieur qui mange mouliné, mixé. C'est pas bon? Ah, il n'aime pas. C'est bon, ça?
Yaourt.
Ouais.
Ah, bah
alors, je vais vous donner à vous si vous voulez.
Oui,
ah, bah,
me
donner
à moi,
Kadaki. Ah. On est résidents, là, nous,
tous. Et vous allez faire les commissions?
Oui, oui, les commissions. À l'infirmière, je ferai plus tard, parce qu'on vient au marché, alors j'irai avec Jean-Claude.
Et cette dame-là a rencontré quelqu'un ici?
Oui, oui.
Ah bon?
Oui,
Jean-Claude. Oui, oui, oui. Elle a fait fiançailles ici. Et Françoise aussi, elle l'a fait. Mais elle a perdu Marcel, c'est Thomas. Il était bien.
Qu'est-ce qui vous a plu chez Jean-Claude?
Oh ben, c'est moi qui a voulu.
C'est vous?
C'est son sens, ben oui. Et puis, il était content.
C'est vrai?
Oh ben, il était ravi, hein. Il est toujours content, lui. Que tu fasses bien là. Je mets mon manteau, non, je veux content. Oui, j'ai un gilet, oui, ça va aller. Et puis j'ai mis mes bas. Attends, vous m'attendez, je vais emmener ça.
Vous allez emmener ça où?
Eh bien, parce que je ne vais pas emmener ça à la main. Oui. Bah, venez, vous verrez ma chambre comme ça.
Ça, c'est le là où vous déjeunez?
Et puis, et tantôt, on a une fête, tantôt, Halloween. C'est pas ça qu'on dit, vous, Halloween. Halloween, eh ben, c'est ça. Et puis, ce matin, dans les petits sacs, on va remplir. Tu vois, si tu veux venir avec nous, j'en peux jouer avec toi.
Bonjour, monsieur.
Madame. Ah, oui. Elle va voir ma chambre. Il va me la garder, Jean-Claude. Et ma soeur de l'autre côté.
Oui, votre soeur?
Oui, oui.
Elle est ici aussi?
Oui.
Ah, vous êtes en famille, c'est bien. Alors.
Ah oui.
Et c'est votre fiancé?
Oui.
Vous êtes rencontrés ici, tous les deux?
Tous les deux, oui.
Tu veux venir avec nous, Jean-Claude? À distraire, non? Ouais, bon, on va y aller.
Allez.
Tout à l'heure.
Alors, vous avez fait connaissance avec Josette, elle a parlé de Jean-Claude. Oui, et comment? Et vous êtes impatient de faire connaissance avec Jean-Claude. Eh ben, le voilà.
Vous avez rempli?
Oui, il n'y a plus qu'à les attacher. Alors,
c'est pour mettre dans le linge?
Non, ça, oui, mais ça sera pour le marché de Noël.
Dans les bonnes, pour le marché de Noël.
Pour faire un peu de sous?
Un peu de sous, oui. Ah.
Et ça fait combien de temps vous êtes ici?
Ça fait 7 ans, là. Avant, j'étais chez moi. Mais vu que ma santé, là, mon satan, c'est lui qui m'a mis ici. Mon satraitant qui m'a mis là. Chez moi, je ne marchais plus. Je fais que tomber avec crise d'épilepsie, et puis je ne mangeais plus. Puis, quand il prenait des crises d'épilepsie, jusqu'à me rouler par terre. Quand mon satan, il a vu ça, allez, on t'embarque. Hein. Il m'a sauvé de la misère, quoi. Ben ici, je fais tout, je fais les vaisselles et tout.
Il vous donne un peu de sous en échange?
Ah oui, un petit picule, ah oui.
Et avant, qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Les cultivateurs, dans les vignes. Je travaillais chez monsieur et madame Chénier. Château d'Arroche. Je suis au château de Posset. D'abord, avant, j'habitais à Posset.
Et vous étiez marié avant?
Ah non.
Non.
Tu sais, avant, j'avais... Pas les agents sont comme escroqués. On m'a escroqué 1 million comme escroqué. 1 million comme escroqué. Pour avoir quelqu'un. Enfin, con. Les semaines passées, mois passés, en fin de compte, tiens. Rien mieux.
Ah, vous étiez passé par une agence?
Une agence, oui. Puis après, j'ai depuis ce temps-là, terminé. J'ai dit, mais quand j'ai fait 2 fois, mais pas 3. Puis c'est là que j'ai rencontré. Ici, oui. Là, oui. Puis avant, je croyais pas. Hein. Enfin, j'étais prêt à me suicider. J'ai que du boulot comme ça, j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Mais toi, du petit en temps, j'ai fait connaissance. Il m'en plaît pas. Alors, on a fini en fiançailles, là, dans le milieu, là. Puis les fleurs étaient là, dans le coin, là. On a des belles fleurs, oui, comme ça, ah oui. Puis ça, c'est ma belle-sœur. C'est Gisèle, c'est ma belle-sœur.
Vous passez le balai, vous?
Oui. On n'a pas à se plaindre. On est content, on est tout ensemble ici. Puis avec les personnes qu'on est. Voilà. It's been a hard day's night. And I'm like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do. Feel all right. No, I work all day to get your money to buy you things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why you love to come home? 'Cause when I get you alone, you know I'll be okay. And I'm home. Everything seems to be right. Sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright.
je m'appelle Michel Mazérin, je suis médecin gériatre à l'hôpital de La Souterraine, en Creuse. Ce qui permettrait de vivre dans de meilleures conditions et plus longtemps, c'est de pouvoir être inséré dans un milieu qui est proche du milieu qu'ils ont vécu pendant la plus grande partie de leur vie. C'est ça, c'est-à-dire que les déracinements, les changements de mode de vie, comme mode de vie radical, comme la maison de retraite, c'est quelque chose qui ne peut pas aider à bien vivre. L'harmonie par rapport à son milieu est sûrement quelque chose de très important pour pouvoir vivre longtemps dans de bonnes conditions, même avec une maladie et même avec une maladie d'Alzheimer. Il est vrai que le fait d'être dans une maison de retraite avec un service qui est prévu, auquel ne participent en général pas les résidents, est un facteur de dégradation, hein, dans la mesure où, pour que l'homme puisse vivre en bonne santé et en équilibre avec son milieu, il faut qu'il ressente l'utilité de sa vie. Or, à partir du moment où on n'a plus de tâches, même pas des tâches personnelles, ou tellement peu que ça devient très menu, eh bien à ce moment-là, on peut penser quand même que le sentiment d'inutilité devient très important. Il est vrai que jadis, chacun, avec ses possibilités, participait à la vie commune. Les gens, ils n'avaient pas qu'à mettre les pieds sous la table. Ils participaient chacun à des tâches. Alors, à des tâches en rapport avec leur capacité, mais quand même, ils avaient l'impression de contribuer à leur entretien personnel, mais aussi à l'entretien de la collectivité. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Moi, qui suis pas très jeune, j'ai connu il y a une trentaine d'années, des maisons de retraite qui avaient encore la possibilité d'avoir des domaines agricoles, par exemple. Et donc, les gens, eh bien, ils participaient à un petit peu, soit à l'élevage, soit à la cuisine, à la préparation des, par exemple, aux pluches. Tout ça, ça a disparu. Et ça a disparu d'une façon très stricte. Maintenant, il n'est plus possible, et même il est interdit, de participer aux tâches ménagères quand on est dans une maison de retraite. Et donc, ça, moi, je crois que c'est vraiment rédhibitoire. Hein. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas vivre s'ils n'ont pas un sentiment d'être utile à eux-mêmes, mais aussi à la collectivité dans laquelle ils sont.
C'était un reportage de Charlotte Perry, première diffusion le 17 novembre 2009. Merci à tous et à toutes. À lire sur le sujet 12 gériatres en colère, où il est question de la mondialisation de la maltraitance des vieux, de Dominique Prédali et Jacques Soubéran, paru chez Fayard le 21 janvier 2009. Également, et on tue les vieux, de Christophe Fernandez, Thierry Ponce, Dominique Prédali et Jacques Soubéran, publié également par les éditions Fayard en octobre 2006. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, il y avait Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, à la réalisation Coy Nguyen et Franck Adhérer, assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Marina Touyez, et le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé à la poste? La distribution du courrier en véhicule électrique.
Électrique?
Ah oui, c'est comme les cafetières.
Les cafetières.
Oui, avant les cafetières, ça marchait au mazout. Le problème, c'était l'épaisse fumée noire que ça provoquait, sans parler du café qui n'était pas terrible. Mais quand les cafetières sont devenues électriques, les gens ont découvert le goût du vrai café.
Ah, du café propre, quoi.
Pour livrer colis et courriers, La Poste a fait l'acquisition de 380 véhicules électriques et pilote par ailleurs un projet national visant à accélérer leur production à l'échelle industrielle.
Et c'est pas tout!
La Poste, la confiance donne de l'avance.
C'est beau ce bruit. Tous ces millions qu'Euromillions met en jeu vendredi. Près de 44 millions d'euros. 44 millions. Et c'est qui va ramasser tout ça?
Estimation non garantie des gains à partager en 1, voire règlement.
Euromillions. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
Chut. FT.
stratégie.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Novembre 2010, Stéphane et Chloé se feront plaisir avant les fêtes.
On récapitule. Un week-end raclette en Savoie, un saut au marché de Noël de Lille, une semaine chez ma mère, le repas.
Oh, du calme, c'est bon, ça en fait des billets là. On a aussi les cadeaux à offrir.
Allons Stéphane, rassurez-vous.
Du 23 novembre au 13 décembre, profitez d'1 million de billets TGV à petit prix pour des voyages du 26 novembre au 16 décembre. Offre soumise à condition, également disponible avec Théos, Lunéa et Intercité.
Super, bah alors on va passer chez ma mère aussi.
Oui, on verra. SNCF.
Priorité santé mutualiste. Marc, adhérent d'une mutuelle de la Mutualité française.
Depuis mon accident cardiaque, je dois suivre un régime. Ma mutuelle m'a conseillé d'appeler Priorité santé mutualiste au 3935. Ils m'ont donné des rendez-vous réguliers avec un diététicien, bien sûr en lien avec mon médecin. Ça m'aide vraiment.
Avec Priorité santé mutualiste, votre mutuelle vous accompagne sur vos questions de santé. Appelez le 3935. Coût d'un appel local depuis un poste fixe. Liste des mutuelles participantes sur prioritésantémutualiste.fr.
France Inter, partenaire du Cirque National Alexis Grus jusqu'au 27 février, Porte de Passy, Paris 16e. Découvrez Mélodie, la 37e création du Cirque National Alexis Grus. Le pari d'une union harmonieuse entre l'art de la chanson et l'art de la piste. Retrouvez le Cirque National Alexis Grus dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Très belle l'après-midi. Dans quelques minutes, vous retrouverez Frédéric Lodéon pour le Carrefour de Lodéon sur France Inter. Il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour. À Orléans, un homme armé d'un fusil a fait irruption dans les locaux de la communauté d'agglomération. Il détient un agent en otage et le bâtiment a été évacué. Sur place, François Guéroux.
C'est peu avant midi qu'a commencé cette prise d'otage dans un bâtiment du conseil d'agglomération d'Orléans. À l'intérieur, un homme de 62 ans qui retient en otage un fonctionnaire à qui il reproche de colporter des rumeurs malveillantes à son égard. Il est muni d'une arme à feu et il aurait annoncé son intention de tenir 29 heures. Ce preneur d'otages est un ancien colleur d'affiches du Parti Socialiste dans les années 90. Il avait déjà fait récemment parler de lui en envahissant le conseil municipal d'Orléans avec un drapeau palestinien. Actuellement, le quartier est bouclé et les policiers du RAID sont sur place, tandis que se poursuivent les négociations en présence du préfet et du maire d'Orléans. À Orléans, François Guéroux, France Bleu Orléans pour France Inter.
Et puis la suite, bien sûr, de cette prise d'otage dans le flash de 17h. À Toulouse, l'inauguration du nouveau tramway est annulée. Les syndicats avaient appelé à bloquer le parcours demain à l'aube. Le roulage de la première rame était prévu à 10h en grande pompe, en présence des élus et de la presse. L'intersyndicale réclame que la prime de 300 euros, promise seulement aux 300 agents les plus engagés dans ce projet, soit versée à l'ensemble des 2300 salariés de la régie. La candidate voilée qui avait créé des remous chez les adhérents du NPA quitte le parti d'Olivier Besancenot. Ilham Moussaïd était candidate aux élections régionales en mars dernier. Sa présence sur les listes électorales dans le Vaucluse avait divisé les adhérents en deux camps. Elle quitte le NPA en compagnie de sept autres adhérents qui déplorent une véritable chasse aux sorcières au sein du parti. Comment juger sans accabler une mère autant victime que coupable? Le tribunal correctionnel de Créteil a dispensé de peine une jeune femme qui avait oublié sa petite fille dans sa voiture. C'était en juin dernier à Arcueil, dans le Val-de-Marne. L'enfant était morte de déshydratation. Cette mère de quatre enfants avait passé la nuit précédant le drame à l'hôpital, au chevet d'une autre de ses filles. Et puis dans l'affaire de la mort du petit Younes, la justice belge a décidé de remettre en liberté la mère, qui reste cependant inculpée de meurtre, tout comme le père, qui lui reste en prison. Il n'y a pas d'éléments suffisants pour la maintenir en détention. En novembre de l'année dernière, le petit garçon de 4 ans avait été retrouvé mort noyé 2 semaines après avoir disparu du domicile familial dans un village proche de la frontière franco-belge. En Côte d'Ivoire, où on s'apprête à voter dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, certains craignent des violences à la proclamation des résultats. Alassane Ouattara a assuré qu'il n'y aurait pas de couvre-feu dimanche soir, prenant le contre-pied de ce qu'avait annoncé hier soir son rival, le président sortant Laurent Gbagbo. Selon Alassane Ouattara, le camp Gbagbo veut le couvre-feu pour qu'on ne laisse pas éclater notre joie dans les rues d'Abidjan. Et puis en Irlande, le parti au pouvoir a été battu lors d'une élection législative partielle. Du coup, la majorité gouvernementale ne tient plus qu'à 2 sièges, traduction de l'impopularité du gouvernement après la présentation d'un plan de rigueur draconien pour assainir les comptes publics. Et cette fragile majorité pourrait menacer le vote du budget d'austérité prévue le 7 décembre. Enfin, neige et verglas au programme aujourd'hui sur quasiment toute la France. 9 départements sont en alerte orange dans le centre et l'ouest. Alerte levée en revanche en Bretagne. La circulation a été perturbée ce matin dans le Grand Ouest, mais tout est revenu à la normale.
Le 7-9 du week-end.
Patricia Martin.
Fabrice Rouel.
Sur France Inter.
Samedi, retour sur les événements marquants de la semaine. Invité à 8h20, Amine Menalia Brouche, militant sarkozyste repenti.
Témoin privilégié de l'épisode avec Brice Hortefeux. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.
Le 7-9 du week-end. Tous les samedis et dimanches.
À demain.
À partir de 7h.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, lors de votre rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je ne sais pas chez vous, mais ça y est, il neige à gros flocons sur Paris. Alors on va se réchauffer avec une pièce assez fameuse en Amérique du Sud, celle d'Horacio Salgan, né en 1916 en Argentine, très précisément à Petit Feu. Et lui, c'est une figure très populaire qui a été vraiment très très important pour l'histoire de la musique sud-américaine. Et il a dit, les gens croyaient que j'étais fou d'apprendre non seulement l'harmonie et le contrepoint, mais aussi le piano, le saxophone et la basse. On me regardait avec suspicion, car j'avais l'air d'une sorte de monstre musical. Pourtant, c'est bien de la musique qu'il écrit. C'est évidemment sur des rythmes de tango. À petit feu, on va tâcher de se réchauffer. Thank you. Un fuego lento, un petit feu d'Horacio Salgan, compositeur argentin né en 1916, interprété par les 12 violoncellistes de la Philharmonique de Berlin. De l'orchestre d'ailleurs, parce que il y a la Philharmonique et le bâtiment. Quand on dit la Philharmonique, c'est les Berliner Philharmoniker, les philharmonistes, il faudra dire, de Berlin. C'est pas tellement l'usage chez nous. Et comme on a entendu les humeurs changeantes dans ce tango, aussi bien passionné que très doux et rêveur parfois, voici, tiré du dernier disque Brahms du pianiste Murray Perahia, deux pièces très différentes d'intention, deux intermezzi pourtant, des intermèdes tout simplement, soi-disant, enfin c'est un peu léger comme terme, mais ça recouvre une réalité un peu plus profonde. Tout d'abord, gracieux et joyeux, intermezzo opus 119.